What is the law? What is the law? What is the law? What is the law? What is the law?
Welcome to Legalese, a broadcast about the law cast broadly.
Bienvenue à Legalese, une émission consacrée au droit qui vise à rendre le jargon plus accessible tout en évaluant de manière critique ces institutions.
I'm Amelia.
I'm Gwen.
And I'm Zach.
Your hosts for this month's edition of Legalese. So on this month's show, we're going to take an in-depth look at some prison justice issues in Canada.
Nous allons d'abord entendre Luce Lemond, professeur. I'm just going to try to fix the sound here.
Okay.
For a minute. I hope that's.
Please pardon the technical difficulties.
In the meantime, Happy New Year! This is our first show for 2019, so. We're looking forward to bringing you shows once a month this year, as we have for the past, I think since like nine, well, I mean, we haven't, but this show has been on since the 80s.
Yeah.
Fun fact. Do either of you know what year?
I don't.
I think it was like 83 or something. I don't know why I have
that
in my head.
I think it's a contested history.
Oh, okay.
Okay. I think the sound is a little bit better. So I was just going to introduce Lucie Lemond, who is professeur en droit carcéral basée à Montréal et porte-parole de la Coalition d'action et de surveillance sur l'incarcération des femmes au Québec. So she spoke to me actually in October, so it's been a while. But everything that she says is actually still happening right now because they're doing a campaign specifically around the Leclerc prison in Laval, where women were transferred in 2015. Donc, elle retrace l'histoire du droit carcéral et de la lutte des prisonniers au Canada, ainsi que la situation des femmes, le travail, l'isolement et la santé mentale dans le système carcéral actuel.
And we'll then play an interview with Toronto-based criminal, immigration, and a bunch of other things, lawyer and prison justice organizer Asaf Rashid, in which we discuss the prison, right of prisoners to unionize. So I guess we'll get to that Lucie Lemond interview in a second. Does anyone have anything else serious or not so serious to add before we get started?
Not really at the moment. I'm looking forward to sharing the interviews and, yeah.
I mean, I suppose on the question of prison justice, I don't want to name the particular case in case I miss some key detail, but I was reading this story about this dangerous driving case in which the person involved is supposedly set to plead guilty. There's no evidence he was drunk or doing anything else obviously reckless, and I think it potentially speaks to one injustice in the carceral system that I don't think we get to today, but something else to think about, where basically this person, he caused harm, didn't necessarily do anything wrong, but society still expects him to be incarcerated, I guess, because we have this very retributive society. So that's something that's been weighing on me, and I just wanted to put that out there as a thought before we got started.
I guess one thing that I would add to that, I mean, we're going to get to that in the Asaf Rashid interview too, but it's interesting how legal terms and terms as we understand them and how they actually operate on the ground can be quite different. And Asaf used the word rehabilitative a lot, and he was using that, I imagine, must have been in the legal context, because that's like one of the kind of supposed policy justifications for the existence of prisons to begin with. But I was just, you know, as I was kind of listening to that, I was thinking, I don't know, like rehabilitative, that's not really what prisons actually do. So that was just a thought that I had. But yeah, we'll talk more about that later.
Mm-hmm. Well, here is Lucie Lemond.
Je m'appelle Lucie Lemond. En ce moment, je suis professeure au département de sciences juridiques à l'UQAM. J'enseigne un cours de droit carcéral, notamment, et à ma connaissance, c'est le seul au Québec qui se donne. J'ai pratiqué avant en droit carcéral dans les années 80, je dirais, à une époque où l'expression droit carcéral n'existait tout simplement pas, là. On a commencé comme les premières causes qu'on a plaidées, c'était pour le droit de vote des détenus. Je me souviens la première fois, je passais devant un juge, il me dit « droit de vote, pas si important que ça, les femmes viennent juste l'avoir. » En tout cas, on repartait de loin. J'étais militante à la Ligue des droits et libertés, puis il y avait un comité qui s'appelait l'Office des droits des détenus, puis c'est comme ça que j'ai commencé à m'occuper de ça, parce qu'évidemment, quand moi j'ai fait mon cours de droit, je passais pas les portes du pénitencier. Le procès juste équitable, défense pleine et entière, présomption d'innocence, etc. Après, oups, ça s'en allait derrière les portes closes et ce que Foucault a appelé l'enfouissement bureaucratique de la peine. Tu sais, c'était des gens qui administrent la peine, qui ont pas de compte à rendre, ni politiquement, ni judiciairement, si on peut dire, en tout cas à l'époque. Maintenant, c'est un petit peu moins vrai. Après avoir pratiqué, j'ai senti le besoin de théoriser un peu puis réfléchir à ça, finalement, à l'enfermement comme châtiment des criminels, tout ce que ça peut vouloir dire. Et j'allais faire mon doctorat là-dessus, et c'est après que je suis devenue prof. Mais je dirais que le mouvement pour la reconnaissance des droits des détenus, ça a suivi beaucoup le mouvement américain de l'extension des libertés civiles aux groupes de moindre pouvoir. Aux États-Unis, la population carcérale était et est toujours noire et pauvre. Et ils se sont, à l'époque, identifiés aux autres groupes qui luttaient pour leurs droits, que ce soit les femmes, les gays, peu importe. Et petit à petit, ça a forcé, je dirais, la reconnaissance des droits des détenus. C'est une lutte qui s'est faite assez surprenamment devant les tribunaux. Bien, pas surprenamment, mais ça a été beaucoup des gains devant les tribunaux, beaucoup plus que politiquement. C'est pas une cause que des appuis populaires comme les droits des femmes, par exemple. C'est très difficile. Les droits des détenus, c'est pas hot, si on peut dire. C'est pas très sexy. Et même, les gens réclament toujours des conditions plus sévères, des peines plus longues, etc. Donc, ça a été vraiment devant les tribunaux qu'on a réussi à gagner certains éléments. Au départ, les détenus étaient perçus comme des gens qui perdaient tous leurs droits et n'avaient que des privilèges qui leur étaient accordés de façon discrétionnaire, tout ça. Et les juges n'intervenaient pas. On allait en révision judiciaire. Par exemple, quelqu'un dont la révocation de la libération conditionnelle, il l'avait révoqué sans lui dire pourquoi, sans l'entendre, etc. Ben, les juges ne se mêlaient pas de ça, ils disaient que ça regardait, ça ne les regardait pas. Donc, ça a été très, très dur devant les juges aussi, mais les gains se sont faits là, et petit à petit, ils ont commencé à reconnaître que même les autorités administratives, les autorités carcérales, avaient un devoir d'agir équitablement et donc l'obligation d'entendre, de transparence, de donner les motifs des décisions.
Ça, c'était dans quelle époque?
Je dirais que c'est pré-charte, fin des années 70, début des années 80. Et là, petit à petit, le législateur est obligé d'incorporer ces exigences de justice fondamentale dans la loi et le règlement, ce qui n'existait pas à l'époque. Ça a été vraiment forcé par les tribunaux.
Et comment est-ce que ces recours ont été amenés aux tribunaux?
Au tout début, c'est par des détenus eux-mêmes. Et par la suite, par exemple, au Canada, on était quelques-uns ici au Québec. Il y avait mon bureau, Nicole Denyeau et moi, un peu une émergence de l'Office des droits des détenus. Il y avait un groupe Prison Law Project à Vancouver et un autre à Queens, en Ontario. Il y avait comme une espèce de clinique qui était subventionnée un tiers par le barreau de la province, un tiers par l'aide juridique et un tiers par l'université Queens. Donc, on a monté des causes, je dirais, à trois provinces ensemble. Par exemple, l'ouverture justement au recours judiciaire, l'ouverture à l'habeas corpus, l'ouverture à la révision judiciaire à la Cour fédérale pour les détenus dans les pénitenciers. Donc, juste faire reconnaître ça, c'était une bataille de procédure au départ, juste l'ouverture aux tribunaux. Et ça, c'était une époque montée des causes en Cour suprême, trois provinces ensemble, une époque où Internet n'existait pas, les courriels puis tout ça. Là. C'était assez compliqué, mais c'était vraiment passionnant et intéressant, c'était du beau droit de se tourner. Alors, par exemple, là, ça a donné lieu en 85 à une trilogie, Miller en Ontario, Cardinal à BC, puis Morin ici, où on a reconnu que les autorités carcérales étaient liées par la règle de droit. « The rule of law must run within the prison walls ». On a fait un poster avec cette phrase-là. Aussi qu'ils ont reconnu l'existence de la prison dans la prison. Donc, quelqu'un qui est envoyé au trou ou qui est envoyé en unité spéciale de détention, qui est transféré vers un pénitencier à sécurité plus élevée, peut demander un habeas corpus pour obtenir sa libération de cette forme plus importante de privation de liberté, un retour dans la population générale.
Et juste pour comprendre, ouais. Est-ce que ça veut dire que les systèmes carcérales étaient vus avant comme un système administratif, un peu comme les systèmes d'immigration?
Oui, exactement.
Donc, il
n'y
avait pas accès aux mêmes droits.
Exactement.
Et après, c'était vu un peu différemment.
Okay. Et ça a été vu un peu différemment. Donc, ça a été cette reconnaissance-là et la reconnaissance aussi par la Cour suprême que les détenus, contrairement à la situation avant, on dit maintenant qu'ils conservent tous leurs droits de citoyens à l'exception de ceux qui leur sont retirés ou du fait même d'incarcération comme la possibilité d'aller et venir. Donc, on est passé d'un être déchu de tout droit, qui a juste des privilèges, donc ça ne regarde pas les tribunaux, à des êtres qui gardent tous leurs droits, à l'exception de ceux qui... Donc, c'était inversé complètement. Avant, je ne sais pas, dans le monde libre, on dit que tout ce qui n'est pas interdit est permis. En dedans, c'est le contraire. Tout est interdit, sauf ce qui est permis. Et là, il y a eu un renversement dans les années 80 à ce niveau-là. Donc, toutes et chacune des pratiques carcérales a été contestée. En matière de libération conditionnelle, en matière disciplinaire, en matière de transfèrement, en matière d'isolement, aussi sur les droits fondamentaux, je parlais du droit de vote. Les premières causes sur le droit de vote, c'était en 1982 au Québec, puis finalement, l'affaire Sauvé de la Cour suprême, c'est en 2002. Alors, ça a pris 20 ans. T'sais, c'est toujours des très, très, très longues batailles. Et souvent, comme je dis à mes étudiants et mes étudiantes, c'est très important de connaître l'histoire du mouvement parce que périodiquement, il y a des retours vers le début. Finalement, il y a des backlashes sans arrêt quand il y a des changements de gouvernement. Ils sont très réticents à intervenir dans ce domaine-là et ça revient, les mêmes arguments reviennent. Il faut replaider ce qu'on plaidait dans la trilogie Miller en 1985. Régulièrement, ça a été le cas en 2005, en 2015. Ça a été obligé de remonter à la Cour suprême pour faire dire encore oui, il y a le droit à l'habeas corpus. Oui, l'autorité est obligée de. Non, ils sont pas obligés d'épuiser les recours internes, de griefs, de ceci, cela avant d'aller en cours, des choses comme ça. Les détenus canadiens, comme les détenus américains, sont très proactifs aussi. Il y a beaucoup de causes qui sont amenées par les détenus eux-mêmes, qui deviennent de véritables experts là, en droit carcéral. Ce qui a changé par rapport à avant aussi, je pense qu'il y a beaucoup plus d'avocats, de jeunes avocats et avocates qui font du droit carcéral, ce qui n'était pas le cas quand on a commencé, évidemment. Nous, on s'est battu, par exemple, pour qu'il y ait le droit à l'avocat devant la libération conditionnelle, devant le tribunal disciplinaire, des choses comme ça. Et là, maintenant, il y a plusieurs avocats et avocates qui le font, qui ont donc de l'accompagnement et qui sont payés par l'aide juridique la plupart du temps. Les recours extraordinaires devant les tribunaux supérieurs, qui est comme une autre partie, qui est de faire demander la révision des décisions des autorités carcérales. Donc là, à ce moment-là, bien, c'est des requêtes, puis c'est des recours extraordinaires. C'est pas des appels. Donc, il faut toujours alléguer violation de la charte ou des principes de justice fondamentale. C'est principalement l'article 7. Il y a l'article 12 aussi, c'est traitement cruel et inusité. Ça va dépendre des situations. Les grosses causes en ce moment concernent le travail en prison. Les luttes actuelles, je dirais, là, la situation des femmes, je pense, et toute la question de l'isolement. Pour les reprendre, la question des femmes, je trouve ça très, très grave. On se rappelle qu'en 2016, les prisonnières, les femmes qui purgeaient des peines au provincial, ont été transférées sans préparation, sans tambour ni trompette, ont été sorties de la maison Tanguy, qui est la prison pour femmes au Québec depuis que je suis née, finalement. Et ils ont transféré dans un ancien pénitencier pour hommes à sécurité moyenne élevée. Donc, un pénitencier qui appartenait au fédéral et qui a été fermé par Stephen Harper en 2012 parce que vétuste. Alors, si lui le ferme, c'est parce que vraiment ça faisait dur. Et là, on a transféré. Le Québec a pris une location de 10 ans dans une place. La moitié de la prison est inhabitable parce qu'elle n'est pas chauffable. Il y a de la moisissure, des fuites d'eau. En tout cas, c'est l'enfer. Moi, je suis allé souvent quand je pratiquais au Leclerc. Puis c'est vraiment très, très dur. Des barbelés, des sas partout. C'est vraiment un environnement architectural qui n'a aucun rapport avec les femmes qui sont là en moyenne pour moins de 2 ans ou qui sont en attente de procès. Et il y avait, à l'époque où ils ont été transférés, il y avait des hommes qui étaient encore là. Alors, c'était vraiment toutes les violations des normes internationales, mixité homme-femme, mixité prévenue, condamnée. Vraiment, c'était l'horreur. La mobilisation que ça a créé, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est une des rares fois où des groupes de femmes ont travaillé avec des groupes de défense de droits sur une cause que je disais toujours qui est très peu populaire. Mais là, on a réussi à expliquer c'est qui ces femmes-là, pour quel type de crime. Des petits crimes liés à la survie, à leur survie, celle de leurs enfants. Des femmes très, très multipoquées, là, je dirais, qui ont été victimes pour la plupart de violences, que ce soit physiques, sexuelles, psychologiques dans leur vie, en tout cas, qui se retrouvent là en prison et là qu'on met comme les dernières déshéritées de la Terre dans des conditions de détention vraiment terribles. En tout cas, la mobilisation a fait que les personnes ont pris conscience de la situation de ces femmes-là et on commença à une réflexion sur le bien fondé du recours à l'incarcération des femmes comme réponse à un problème social. Les trois quarts sont pauvres, analphabètes, problèmes de santé mentale, etc. Puis on les envoie en prison. C'est complètement contre-productif et socialement, ça coûte très cher, tout ça. En tout cas, ça a fait en sorte que ça a quand même bougé. Les principaux héritants sont tombés. Les hommes ont été sortis de là, etc. Mais il en demeure pas moins que ça n'a pas de bon sens comme lieu que les femmes soient là. On a fondé une coalition d'action et de surveillance de l'incarcération des femmes au Québec dans laquelle on retrouve la FFQ, la Ligue, mais aussi Stella, le Centre des femmes de Laval, parce que Leclerc est situé à Laval, et plusieurs autres groupes sympathisants aussi, des étudiants, des profs. Et là, on demande là, aux partis politiques de s'engager, là, de qu'est-ce qu'ils vont faire là, dans les prochains temps. Alors, c'est un gros problème. Les femmes dans le système carcéral ont toujours été victimes de discrimination totale. Avant, il y avait juste un pénitencier pour femmes dans tout le Canada, c'est à Kingston, en Ontario. Donc, déjà, c'était discriminatoire parce que tu avais des femmes autochtones de BC, des Québécoises qui ne parlaient pas anglais, qui se ramassaient là, loin de leur famille, leur communauté. Et très peu de programmes, ils faisaient des pantoufles en fin de texte, au prétexte qu'ils étaient très peu nombreuses. C'est sûr que les femmes sont 4 % de la population carcérale au Canada. Alors, ça justifiait l'absence de programmes intéressants, l'absence du fait qu'ils peuvent acquérir une carte de compétences pour avoir un métier. T'sais, ils font du nettoyage, puis rien qui peut après les aider dans la vie civile. Alors ça, c'est un des gros problèmes. Puis en plus, on applique les mêmes outils d'évaluation actuarielle pour la dangerosité puis le risque d'évasion, puis tout ça, ce qui n'a aucun rapport. Elles sont surclassées sécuritairement, sont plus en isolement que les hommes. En tout cas, ça, c'est un gros problème, les femmes. Et on dit qu'à l'heure actuelle, je pense que au-delà de 35 % de la population carcérale féminine, c'est des Autochtones.
You've been listening to an interview with organizer and professor Lucy Lamonde on Canada's prison system. We're going to take a quick musical break. Here is Leila Makala with Day for the Hunter, Day for the Prey. And stay tuned with us. Stay tuned for part two of the interview with Lucy Lamonde up next.
Souls who have gone up.
L'autre gros problème, c'est l'isolement. Ce qu'ils appellent l'isolement préventif. C'est-à-dire qu'il y a deux sortes d'isolement. Le détenu peut être condamné ou la détenue peut être condamnée par un tribunal disciplinaire à 10 jours de trou, par exemple. Alors ça, c'est de l'isolement disciplinaire. Mais là, il y a toutes sortes de garanties procédurales. Tu as le droit à l'avocat, preuve hors de tout doute raisonnable, un avis avant, connaître, contre-interroger. Ça ressemble à un procès criminel. L'isolement préventif, c'est quand le directeur estime que la personne ne peut pas rester avec les autres, soit qu'elle est en danger, elle-même court un danger parce qu'elle va se faire battre par les autres, ou soit qu'elle elle est un danger pour les autres. Et c'est devenu un outil de gestion, notamment de la population qui souffre de problèmes de santé mentale. Ils mettent en isolement. L'absence d'effectifs, ils mettent en isolement. Même, il y a de moins en moins de poursuites devant le tribunal disciplinaire, parce que là, ils seront obligés de respecter toutes ces garanties procédurales-là. Alors, ils les mettent en isolement préventif. Ils s'accusent plus. Alors ça, c'est devant les tribunaux. Il y a une grosse cause qui a été gagnée à BC Civil Liberties avec John Howard Society. En première instance, le gouvernement est allé en appel où le juge conclut que c'est traitement cruel, inusité, tout ça. Ici au Québec, il y a un recours collectif qui a été autorisé pour les personnes qui ont été en isolement pendant plus de 72 heures en ligne ces dernières années dans les pénitenciers situés au Québec. Donc, c'est une affaire de, je veux dire, à peu près 40 millions de dollars. Il y a des causes en Ontario. En tout cas, ça va bouger. Ça va commencer à bouger aux États-Unis aussi, puis ça va bouger ici. Et la troisième, bien, c'est la question du travail. Là, on a vu qu'il y a des grèves aux États-Unis, aussi à Nouvelle-Écosse, mais aussi il y en a eu dans les pénitenciers au Québec, des petites grèves spontanées, là, moins organisées, dans les dernières années. En fait, un des problèmes, c'est le salaire, entre autres. Le salaire journalier maximum a été établi en 1982 à 5,90 par jour. Et il a augmenté d'un dollar en 2018. Alors, c'est 6,90 par jour le maximum. Ça avait été établi, ça, en tenant compte, à l'époque, du salaire minimum. Pendant le règne de Stephen Harper, on a encore augmenté les retenues à la source pour la nourriture, l'hébergement, etc. Ce qui fait en sorte que, d'après les calculs qui ont été présentés en cours, la personne a fait à peu près 40 cents de l'heure. Et évidemment, la question qui se pose aussi, est-ce qu'on est revenu aux travaux forcés, à une forme moderne de semi-esclavage, dans le sens où si la personne ne travaille pas, ben, elle a des conséquences énormes pendant toute son incarcération parce que de plus en plus, il faut qu'il achète toutes sortes d'affaires dans ce qu'on appelle la cantine. Là, c'est pas juste des tablettes de chocolat, des sacs de chips, là, c'est la crème à barbe, des aspirines, en tout cas, tu sais, des choses essentielles qu'il faut qu'ils payent eux-mêmes.
Pour faire des appels aussi.
Oui, faire des appels, des choses qui coûtent beaucoup plus cher qu'à l'extérieur. Supposément parce qu'ils sont contrôlés et tout ça. Bon. Et aussi, c'est que maintenant, ils ne font pas juste du travail pour le système comme avant. Ils faisaient, je ne sais pas moi, pour le fédéral, des bancs de parcs nationaux, des poubelles ou des choses. Tandis que là, c'est aussi des contrats dans le privé. Ça aussi, il y a des causes devant les tribunaux qui ont été plaidées. On attend les décisions. Je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir. J'ai de la misère à être très, très optimiste. Les décisions qu'il y a déjà eu à date dans les dernières années, notamment des tentatives de syndicalisation, ça n'a pas marché. C'est parce qu'ils disent que finalement, ce n'est pas du salaire. C'est quelque chose qui va avec le plan correctionnel de réhabilitation, puis c'est comme récompense pour ton bon comportement, plus que rémunération comme telle.
Ouais.
En tout cas, ça, c'est les grosses luttes que j'entrevois là, dans les prochaines années. Évidemment, aussi toute la question des Autochtones.
Mm-hmm. Et pour les personnes qui ne connaissent pas du tout l'information sur les prisons au Québec et au Canada, est-ce que tu pourrais nous donner un peu un portrait? Comme tu as parlé avant des crimes liés à la survie, et en général, il y a beaucoup de stéréotypes.
Sur le type de personne?
C'est ça.
Qu'on retrouve le type de crime. En fait... moi, je suis abolitionniste, là, et ça fait longtemps que je le suis.
Il y a beaucoup de pays qui sont arrivés à réduire la population carcérale de façon importante, notamment, je donne l'exemple de l'Allemagne, qui ferme des prisons parce qu'ils n'ont pas le droit de donner des courtes peines. Ils n'ont pas le droit de donner des peines de moins de 6 mois. Si tu mérites juste une peine d'un mois ou 2 semaines, ben fais d'autres choses. Tu sais, des travaux communautaires. Et, tu sais, comme disait Loïc Vacan, qui est un grand sociologue de la prison, là, qui est prof à Berkeley, il disait, on est passé d'un filet de protection sociale à un filet pénal. Plein de monde qui sont en prison en ce moment, ils sont parce qu'on n'a pas été capable de les éduquer, de les soigner, de leur offrir des services sociaux, puis ils se ramassent là. C'est un peu l'équivalent, même, a dit l'enquêteur correctionnel l'année passée, à le placement en asile il y a quelques années, ou la résidence pour les Autochtones. C'est rendu un fourre-tout, les prisons, de personnes qui n'ont pas de rapport là, non. Sinon, qui ont fait une petite pécadille parce que trop pauvre, il est dans un cul-de-sac, et là, fait un petit vol, fait ci, fait ça, puis là, de fil en aiguille, ben là, c'est les portes tournantes, puis tu retournes, tu trouves plus de logement, tu trouves pas de travail, puis... Alors, c'est vraiment le portrait de la population carcérale. Ils disent qu'il y a peut-être 90% qui n'a pas de secondaire 2, 90% qui viennent de milieux très pauvres, 78% des femmes ont fait du travail du sexe dans leur vie. Je veux dire, c'est vraiment lié à la pauvreté, la couleur de la peau aussi, bien souvent. Mais je pense pas que... Ça, effectivement, on s'imagine que c'est tous des gros bandits, des tueurs à gages, des affaires comme ça. Là. C'est pas ça qui peuple nos prisons. Du tout, du tout, du tout.
En 2015, le Comité des droits de la personne des Nations Unies ont critiqué le Canada. Ils ont dit que la politique pénitentiaire, particulièrement avec ce que vous disiez avant avec l'isolement cellulaire, était un problème. Ils ont fait des recommandations au Canada. Est-ce que vous voyez que dernièrement, les conditions deviennent de pire en pire, au moins de s'améliorer?
Là, étant donné, moi, je pense que beaucoup plus que les reproches du comité de l'ONU, ce qui a fait bouger un peu les choses, c'est les décisions dont je parlais tantôt là, sur le traitement cruel et inusité, ou des causes en Ontario qui ont été gagnées, où ça a été des actions en dommages intérêts, puis ça fait plus mal dans la poche. Là. Ça a fait en sorte qu'il y a moins de recours à l'isolement, paraît-il. Les dernières statistiques disent qu'il y a moins de recours à l'isolement et pour de moins longues périodes. Par contre, c'est remplacé par quoi? Beaucoup plus de transferts interrégionaux. Si quelqu'un est fortement désorganisé, par exemple, dans le pénitencier de Dorchester, en Nouveau-Brunswick, puis là, il l'envoie à Vancouver. Je veux dire, c'est pas mieux en termes de respect des droits, là. Je pense pas que c'est mieux. En tout cas, je suis pas sûr que ça a changé tant que ça. Ce que je trouve grave, c'est que le gouvernement va en appel. Supposément, quand le gouvernement libéral de Justin Trudeau a été élu, la ministre de la Justice à l'époque, qui était une femme autochtone, si ma mémoire est bonne, j'ai de la misère à les suivre, avait déclaré qu'il mettrait une politique sur l'isolement, qui enlèverait des peines minimales dans le code criminel, qui défrait un peu ce que fait Stephen Harper. Il n'y a absolument rien de ça qui a été fait. Les peines minimales qui sont tombées, ça a tombé de 20 tribunaux. Tu sais, moi, souvent, les étudiants et les étudiantes me disent, ouais, le droit comme outil de changement social, non, c'est pas sûr, tu sais, on est mieux d'aller dans la rue que de contester. Mais moi, je pense qu'en matière de droit des détenus, si on n'était pas allé devant les tribunaux, on serait encore à l'âge de pierre, là, je veux dire, c'est vraiment les gains devant les tribunaux qui ont fait que ça a avancé.
Donc maintenant, parce qu'il n'y a pas de changement politique, c'est un peu... aux tribunaux encore, au recours que les gens font, d'essayer d'avoir des changements.
Et c'est ça encore aujourd'hui, parce que c'est comme les partis politiques qui annoncent avant les élections qu'ils vont faire le changement au mode de scrutin, puis rendu quand ils sont sur place. Mm-hmm. Et là, c'est la même chose, c'est comme, c'est du populisme pénal. Mm-hmm. C'est clair et net. Harper avait dit à l'époque, parce que à mesure qu'augmente la population carcérale puis que durcissent les conditions de détention, il y a une baisse constante de criminalité là au bord. Mais là, Harper dit, ah, moi, je gouverne pas avec des statistiques, je gouverne avec le sentiment d'insécurité des gens. Plutôt que dire aux gens que votre sentiment d'insécurité n'est pas justifié, tu fais ça.
C'est incroyable. J'ai entendu qu'on a le taux de criminalité la plus baisse depuis les années 70.
Oui, 80, ouais, faut au moins 60, 70 même.
Mais on a plus de personnes incarcérées.
Ouais, ouais. Et là, ils disent que cette année, les prochaines statistiques, il va y avoir une remontée. Deux événements, c'est entre autres la tuerie à Mosquée de Québec qui a fait jumper le taux d'homicide et les tueries à Toronto. Là, il va y avoir une montée de la criminalité, mais sinon, c'est plus que depuis 20 ans, c'est depuis 40 ans, que 50 ans même qu'il y a une baisse de criminalité. Puis les endroits où la criminalité est le plus faible, dans toute proportion gardée, c'est dans les centres urbains. Contrairement au sentiment d'insécurité des gens, justement, là, tu sais, les plus hauts taux, c'est dans les territoires du Nord-Ouest, puis sur la Côte-Nord au Québec, puis dans ces endroits isolés.
Le matin, mon cadran est assez cahuté. Pendant le déjeuner, j'écoute ces cahutés. En me rendant au travail, j'écoute ces cahutés.
Pourquoi quelques urlaires veulent tout casser?
Au travail, on écoute tous ces cahutés. Pendant que je prépare le souper, c'est ces cahutés. Plus tard, pour relaxer, je syntonise ces cahutés. Et dans mon lit, j'écoute encore ces cahutés.
Ces cahutés! Ces cahutés!
Je capote sur toi. Tout ça au 90.3 FM à Montréal.
Gotta love
c'est cahuté, c'est cahuté.
Gotta love those CKUT station IDs.
Yeah, well, before that, we heard a Montreal-based carceral law scholar, organizer, and professor, Lucie Lemonde, who discussed the history of carceral law and prisoner organizing in Canada, the position of women, labor, and the use of solitary confinement in today's prison system.
Yeah, so that interview with Lucie took place in October of 2018, so quite a few months ago, but actually everything that she says, especially about the Le Clerc prison, which is the prison where women from Tanguy were transferred to in 2015. So just as a quick reminder, she mentions that Le Clerc, which was a prison for men, was closed actually by the Harper government in 2012.
Because it was considered uninhabitable.
Yeah.
So specifically, uninhabitable in this case means that the Le Clerc prison has had faulty heating, visible cracks in the walls, sludge bursting from pipes, drains were bubbling over with maggots, the ventilation system was rusting and blocked with dust, toilets were frequently clogged, periodic bed bug and mice infestations, and that the water, which comes out brown, has also been deemed unsafe to drink. So, just to give you a kind of an idea of what that means.
Yeah, and that's actually in the present tense because that's the current conditions that the women who are there face. And it's Quebec's provincial prison, so it's where most women who are doing any sentence of under 2 years are sent to. Mm-hmm. So what that means is it's mostly women who have done what Lucie calls crime de service, so survival crimes.
Petty theft and...
Yeah.
So, like, crimes that are, like, very, very heavily, like, connected to poverty and are generally less long sentences.
And you were saying it was a bureaucrat with the Harper government who declared it unfit. So like, it's very objective how bad it was.
I mean, yeah, they shut it down because they didn't want people to be imprisoned there. And what's interesting, too, she mentions in the interview that actually when they first transferred the women there, they were actually cohabiting them with men. So there was all kinds of issues that were faced, that the women had to face that they shouldn't have had to face in the first place, and that the people who continue to work there, the guards and those who are in charge of the Le Clerc prison, are used to working with men as well, to doing intervention with men. So it's not at all giving women the kind of support or any support, probably. I mean, it's horrific. So there's a coalition that has been organizing against this that Lucie is part of. It's called La Coalition d'Action et de Surveillance sur l'Incarcération des Femmes au Québec, so CASFIC. And the members, as she said in the interview, are the Santé Femmes de Laval, la Fédération des Femmes de Québec, and the Ligue des Droits et Libertés, and also Stella Lamy de Mamie. So they are pushing for the Quebec government to do something about it and to essentially shut down the prison because they say it's not fixable.
Mm-hmm. So just a note before we move on to our second feature, we just also wanted to mention that obviously prison justice issues like this is a... We could talk about a lot of things, and one of the really like central and important ones to talk about are trans prisoners and Indigenous prisoners issues, which we didn't have a chance to cover in this episode. So we just wanted to make a note that we would like to address that in a future episode.
So that brings us to our second interview, which I did with Asaf Rashid. So he's a criminal, immigration, and lots of other things lawyer. And we talked about prison justice. Specifically, he wrote this paper called The Right of Federal Inmate Workers to Unionize. We'll be sure to share that. So we talked about the arguments in that paper. It became very legal, but also just more generally a critique of the state of workers in Canadian prisons today. So we're joined by Asaf Rashid to discuss his work around unionization, particularly his paper, The Right of Federal Inmate Workers to Unionize. Asaf, to start off, could you tell our listeners about your practice and how you started doing prison support work? My understanding is that criminal law is one of your primary areas of practice, but one thing our listeners may not know is that criminal and carceral law are often very different areas of practice. So I guess, how did you get into this prison stuff? Because compared to other lawyers, it looks like you do quite a broad range of things.
What I mainly do is immigration law and criminal law. But I have this interest particularly in unionization of inmate workers because before I was even in law school, at a point during while I was in law school, I was a union organizer. So I was particularly focused on assisting workers at the University of New Brunswick in Fredericton campus, unionized TAs and RAs. At one point, I was involved in that drive, as well as a couple of other union drives on that campus. I've never forgotten that. It's still important to me. But then, for various circumstances, I ended up becoming a lawyer. But I'm still quite interested in assisting those who are in particularly the most difficult circumstances and trying to further their rights. And particularly with inmates, now that I'm a lawyer and one area I do is criminal law, the reason why I do criminal law, one of the main reasons is my opposition to the way the whole carceral system functions and you know, the thought of people going to jail. And you can get people spending years in institutions and end up, when they get out, in a state of utter impoverishment in many ways, from the isolation they face in jail to just the level of poverty they have when they get out because of the rather pathetic amounts of money they make, even though many of them work quite a bit, particularly the long-time offenders. And then, of course, there's the fact that when they get out, due to their criminal records, they can't get a job. The whole area of inmate unionization isn't really a live legal area per se, because so far Canadian law has not recognized that right, not yet, but I believe it does exist, and that's one idea I'm hoping to take further.
Right. Well, why don't we start off, your paper seems to jump from the case of David Jolivet, an incarcerated person who tried to start a union and was basically blocked from accessing information for the union drive. So can you tell us a bit about that case?
Right. Yeah, so that was an effort back in the fall of 2011 where David Jolivet at the Mountain Institution at Agassiz, BC, was trying to organize his fellow inmate workers. And it was prevented from going along the range and signing people up with union cards. And then when he challenged this, saying that you can't do that, you can't stop me from trying to sign up my fellow workers, the first forum that he went to was the Public Service Labor Relations Board, which is what deals with applications from those in the federal public service, and was denied on two grounds. One being that basically being told you're not on the list, meaning that there's a number of federal public service jobs out there, specific number that are on a list. If you're not on the list, your job doesn't exist, meaning you're not an employee. And another reason was that it was stated that in any case, even if you were on the list, more or less, you still aren't employees per se, because you're actually in a rehabilitation program. You're not employee. So this is something important, actually, quite important, is there's the generic category of worker, which includes a volunteer worker, which, I mean, in some ways you can even say a student doing assignments is a worker too. But the legal category is employee. If you're an employee, you have certain rights, minimum rights under employment standards legislation in provinces or federal employee, whatever federal employment standards legislation you're under. And for the public service, they have their own standards as well. So you're covered under basic minimum standards, and every employee has a right to unionize, except there's some categories to exclude it, like agricultural workers. So this is pretty key that in the Jolie Bay decision at the Public Service Labor Relations Board, it was stated by the board that you're not employees, basically saying that you, even if you were technically, you know, an existing federal government employee, you're not an employee in law, meaning we, you know, kick you both times. So that didn't work out. And then so that decision came to the Public Service Labor Relations Board in 2013, and he tried to challenge it. The federal court didn't work. Another decision was in 2015, which was at the under the Canada Labor Code. So it's the Canadian Industrial Relations Board. And in 2015, using the exact same circumstances, being denied the ability to organize his fellow workers, being prevented from accessing them, but instead of applying to the public service, he applied through under the Canada Labor Code through the Canadian Industrial Relations Board, which is everybody else, all the other federal workers, the ones that aren't technically public service but would be considered private service, which include Crown Corporation employees. And actually, what Jolivet tried to do in this case was argue that particular group of federally made workers, which are through this operation called CAN, which is one part of federal inmate worker group, which is the more of the business side of the federal inmate workers, which does things like make furniture and other services that are particularly used by other federal government departments. So this is more in the higher end of federal inmate work. They tend to get, I mean, they all get paid almost nothing, but these particular workers get paid a little bit more than the others, which are, I'll get into in a second, the institutional labor. Mm-hmm. But so Jolie Bay tried to specifically organize this group of call them like the higher end federal inmate workers, which do this work, such as making furniture. And in this particular case, he tried to apply through saying that they were Crown Corporation employees, saying that these workers are working for this entity that's under Corrections Canada called CORCAN, which sells furniture to other federal government departments. They make money. They're a Crown Corporation. That didn't work. The Canadian Industrial Relations Board said, nope, you're not Crown Corporation employees because this entity called CORCAN isn't a Crown Corporation. So that was out the window, too. So both the attempts in 2013 and 2015 didn't work.
Right. So I'm curious how access to justice issues come in here. So we went to these two different tribunals. Do you think they got to different decisions than maybe the mainstream court system would? And if so, was there any possibility of just sort of accessing the general court system on these kind of questions?
Well, the thing is, it's kind of stuck with anybody who's trying to unionize is stuck in first going through the route of trying to certify the union through whatever labor board is the right one. It could be provincial labor board in whatever province you're in, or it could be the public service at the federal level, or it could be the private service at the federal level. But that's the starting point. Like one of those places is the starting point. So as far as trying to jump over all that, that is something, I mean, governments can ask constitutional questions, can ask a court to determine whether something's constitutional or not directly without necessarily having a particular conflict to deal with. It's like, you know, in fact, like preempting a conflict in some ways. But when it comes to workers or employees, then you need to go through the first step, basically. I'm not sure if there's any kind of a clear way around that, unless there's something I don't know, which is quite likely. But basically, the route to take is you got to go through the board to certify.
Right. So
a particular board, yeah.
Mm-hmm. So in your paper, you make this argument that inmate workers do or should have the right to unionize. And I guess one of the complexities we're getting at here, and again, for people who don't know the law as well, the weird thing with, you know, a lot of law is it's not necessarily based in specific written rules. It's based in precedents. It's based in abstract principles. So what you do if you're a lawyer or a judge, you sort of argue that this law that we're making up now has been the law all along. So I guess with that context, is your argument that the law all along has been that inmate workers have the right to organize, or is your piece more openly aspirational and saying, you know, this should be what charter principles say?
Well, I think it's a bit of both, because I think even in 2013 and 2015, the two attempts that Jolivet made at that time, if a different, let's say, different strategies were taken, if there was more evidence presented in both those cases, then maybe it could have worked out differently. Like one of the points was that they're not, in the case of the public service, told, oh, you're not on the list of federal government employees. There might have perhaps been some way to find a particular group of federal government employees that are in the public service that is, let's say, not clear-cut as far as who is exactly in the group. Like maybe there's some room for interpretation saying, well, you know, there might be a way to say that inmate workers fit under some group of like auxiliary workers or something that could then be used as justification saying, well, they are on the list. So maybe there could have been, I don't know, actually, because I haven't delved deeply into this yet, but there might be a particular category where they fit. So that means maybe they're on the list. And as far as them not being employees, even at the Public Service Labor Relations Board in 2013, the decision maker said that he didn't have enough evidence to determine whether they were actually employees in any case, not in front of him. Or I don't know if it was a him, but in front of the board, there was not enough evidence, according to the decision maker, to decide whether they're employees or not in any case. Maybe if there was more evidence introduced, it could have worked. As far as the 2015 case at the private service level, the Canadian Industrial Relations Board, for that one, the attempt was made to say that they were Crown Corporation employees. That didn't work. But there was another way that could have been tried, which is that they're not Crown Corporation employees. They're just straight up private service employees. They, by their very nature, the work that they do is inherently federal because under the Constitution, there's two boxes. There's one provincial, and there's another that's federal. And the section under the Constitution that deals with federal workers includes workers that deal specifically with corrections. As long as these federal workers do some work that is fundamental to the importance of corrections, you could say, well, they're inherently federal, so because they're not in the public service, they must be in the private service. There's only one or another option, so you have to put them in one particular spot. So you can say that their work is fundamental to the nature of corrections because one of the fundamental functions of corrections is supposed to be rehabilitation. And that's one of the things that is stated in the rejection of the inmates as employees, is saying, well, you're not actually employees because you're just being rehabilitated. So, well, okay, they can't have it both ways. I think they're both. It's both rehabilitation, so to speak, and it's employment. But if there's this rehabilitative character, that means it's fundamentally important to corrections because a main function of corrections in the Corrections and Conditional Release Act is rehabilitation. So you can make the argument that they're essentially federal workers.
Solidarity forever. inspiration. Through the workers' blood shall run. There can be no power greater anywhere beneath the sun. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the union makes us strong.
Solidarity forever.
In the United States, it's well known that there are major corporations that profit off the affordability of prison labor. Is there a similar story at all in Canada? And how would you characterize CorCan as an exploitative entity?
Oh, definitely exploitative entity, without a doubt, because you have inmates that are working for, you know, at most over a little over $6 a day, making furniture that's sold to other federal government departments. I mean, any like basic understanding of how labor works in capitalism, it's like, you know, if you pay your workers nothing, then you're making a much higher profit. So if you have these inmate workers who are making furniture and getting almost nothing for it, versus take a group of employees outside of jail, and they're obviously going to be making a lot more wages for making furniture, the money's got to go somewhere. And corrections will argue, oh, the money's going into supporting rehabilitation programs and supporting the inmates' housing and things like that. It's just feeding back into the institution. But there's still a lot of, I guess you could say, forensic accounting to do on exactly where the money's going. But I don't believe that's the case, that it's just all being used to support the programs within corrections. We all know that rehabilitation programs have been declining since the early 2000s, or major cuts under the Harper government. So where is the money going? It's a good question. So that's very exploitative, as well as all the other labor. Most of the labor in federal institutions is actually institutional labor, which is cleaning the cafeteria. It's mechanical work, doing repairs around the jail. It's working the laundry room, the kind of scenes a lot of people see on television outside of the more business end of inmate labor. That is the bulk of the labor that happens in federal institutions. If you take that out of the picture, most of these institutions would in many ways grind to a halt. These inmates keep those places running.
Right. And to recap, an essential part of being an employee is that your work benefits the employer, so by doing these jobs, they're benefiting the employer. Thus, you would argue they're employees, and thus they should have the right to unionize.
Yeah, definitely. I mean, there's a few parts to the test of how someone would be considered an employee. There's like the basic parts of it, like, are you competing for your jobs? Are you being paid? Is there some sort of remuneration, wages? What about the control? Is somebody telling you what to do? Do you have an employer? And then, of course, there's the power of the employer to discipline or dismiss. So those are like the basic parts. But then when you throw in this bit of a monkey wrench of rehabilitation into the picture, and then the way that the government will argue it is say that, well, this is for their benefit. We are rehabilitating these inmates so that they can then be released and be functioning members of society, or however they would want to put it. But the reality is that it's both. There is this character to it, which does fit into the whole matrix of how corrections has the rehabilitation set up as an aspect of what the incarceration system is for, is to get people ready to be released back into society. But that doesn't mean that there can't be this particular character to it, as well as being a character which benefits the employer. In fact, there's a number of cases that deal with the question of students, where students previously considered to be capable of being employees, even postdoctoral fellows who are now able to unionize, and many of them are unionized in Canada. Before, they were told, no, you're learning, you're not actual workers. This is for your benefit. All of this research work you're doing is for your own benefit. So you have no right to unionize. That was changed.
I mean, I suppose the argument that they'll try and make is this work experience counts for something outside of the carceral system. Do you have any sense of whether that work experience is any good in terms of getting jobs?
Well, that's something that I need to honestly dig into a little more. But others who have some expertise in this area is that, no, the programs are actually, at least today, aren't very well tooled to help inmates get work when they get released. For example, a lot of the inmates through CorCan are making furniture. Okay, get out of jail. I don't see like an abundance of furniture making facilities out there in Canada.
Right. The carceral law scholar Lucy Lamont described prison labor as one of the three leading carceral issues of the time, along with Indigenous rights and women's rights. So we've already talked about how people in the system are grossly underpaid for their work. Is that largely why they need to unionize, or are there other kinds of abuses they encounter while employed in prison?
Well, I think it's important to consider what could be a union. You know, what is the idea, the basic idea of a union? And that is that you have workers coming together to collectively deal with their issues rather than deal with them individually. And in prison, you have these host of issues, which involve your incarceration as well as your conditions within there, which could be subcategories like work. So it could do with like the actual living conditions in jail, for example. It could be the quality of your cells. It could be the quality of the food in the jail. That's a big issue that was brought up recently at the big protest out in Burnside that lasted quite a while, just a few months ago in the fall. So there could be those kinds of life issues as well as the work issues, but they all come together because in the case of inmate workers, your jailer is also your employer. So it's the same. You have the same boss who is your jailer. I think that through a union, what you actually get is you have workers that would be coming together and finding a way to collectively deal with their issues with outside support. And that's the key, where the union wouldn't just be ideally something which is entirely inside the jail, but you would have staff who are outside of jail. You'd have support that could come in from outside of the jail, including legal support that would assist the inmates in dealing with grievances. And if the time came to take collective action, to take job action in response to poor working conditions, which could also be other conditions that involve general conditions of incarceration. Like, it's really hard to separate that in jail because it's all intermeshed. So I think it does have greater possibilities because, I mean, obviously outside of jail, you see unions getting involved in all kinds of campaigns for human rights in general. And you can have an inmate union doing the same thing.
Exactly. Well, Asaf Rashid, thanks for joining us today.
Thank you.
So that was my interview with Asaf Rashid, and he just wanted to make sure some of his points came across well. So just sort of like the fundamental idea that prisoners are a uniquely hard group to organize.
Mm-hmm. And this is because prisoners are under tighter control than most other workers, if not all. They're divided. There's also no media coverage, so accountability is very difficult. And then
it's hard to get people, and both the general public and even union organizers, to sympathize with their cause. So all sorts of reasons. So we'll share a little bit more of Asaf's thoughts on our Facebook page after the chance. But I think we have to wrap up now. We're cutting into Butcher T's time.
Oh, yeah. So that brings us to the end of our show for this month. Thank you to everyone who contributed. Again, you can listen to Legalese every second Friday of the month from 11 a.m. to 12 noon on CKUT 90.3 FM in Montreal or online from wherever you are at ckut.ca.
So if you'd like to give us feedback, you can get in touch with us at legalese@ckut.ca. You can also find us at Facebook. And now stay tuned for something completely different. Butcher T's Noontime Cuts up next. See you next month.